Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est Fanny, bienvenue dans cet audio consacré au joyau. Le joyau, bien entendu, c'est une métaphore, c'est un concept que je mets sous la forme de joyau, parce que ce n'est pas ce que nous obtenons immédiatement lorsque on prend conscience de sa blessure d'âme, que ce soit n'importe laquelle. On se retrouve plutôt avec une pierre sans forme, terne, sans couleur, et plus on va travailler sur la résolution de nos blessures, sur leur compréhension, leur expression, leur purification, plus on va nettoyer notre joyau et le polir pour obtenir finalement un trésor. Donc le joyau de la blessure de feu imminent, c'est ce qu'on obtient une fois en fait qu'on a guéri la blessure. Et ce trésor-là va nous aider ensuite pour toute notre existence, on va le porter fièrement. Et quand on a résolu comme ça toutes les blessures, alors bien entendu, on a toutes les blessures à un cran différent, et on peut ne pas du tout souffrir de certaines parce qu'elles ont un très très faible impact sur nous, et que le joyau est quasiment déjà poli. Mais quand on arrive à comme ça traverser toutes ces blessures et à polir tous les joyaux, on obtient une magnifique couronne composée de tous nos joyaux, c'est-à-dire qu'on a atteint le stade de maîtrise spirituelle, le stade de maître, le stade de souverain total de soi-même, tout simplement. Pour commencer, je vous propose de faire un récapitulatif très global de la blessure, très 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 général, pour prendre un petit peu de la distance, du recul, et pour nous éclaircir un petit peu les idées. Puis, nous irons vraiment à la découverte du joyau de cette guérison. Comme vous avez dû vous en rendre compte jusqu'à présent, la blessure du féminin est complexe à comprendre, car en fait, elle est double. Elle agit sur les deux polarités en même temps, et va les déséquilibrer chacune dans une autre essence. C'est une blessure, comme je le dis, un petit peu en introduction, qui est majoritairement possédée par les femmes, ce qui explique son nom, la blessure du féminin, et que ce soit pendant l'enfance ou dans des vies antérieures, la femme, à un moment donné, a connu un trauma ou plusieurs, un abus ou plusieurs, notamment en subissant le mésusage du pouvoir masculin par une autorité sur elle-même. Cet abus a eu lieu spécifiquement sur l'être en raison de son genre féminin. Peu importe l'individu et ses spécificités propres, mais parce qu'elle était femme et parce qu'elle avait, qu'elle était du genre femme. Donc on a à la fois une femme qui ne sait pas comment utiliser son énergie masculine de protection saine parce qu'elle n'a pas appris à le faire. Par l'exemple, parce qu'elle n'a pas été témoin d'un masculin juste qui pouvait en fait lui apprendre par son comportement. Et en même temps, elle a vécu la négation de son énergie féminine, qui justifiait en fait cet abus même. Donc, la femme blessée ainsi renie son énergie féminine, plus ou moins fortement d'ailleurs, que ce soit dans sa biologie de femme, c'est-à-dire son intimité, ses désirs, son cycle menstruel, et en plus dans les qualités de la femme, telles que la douceur, la maternité, la compassion, la fragilité, l'émotivité, etc., etc., etc. Alors, tout ça se passe tout simplement parce qu'en pensant inconsciemment à s'en détacher, elle pensait cette femme, nous, se mettre sous silence, mettre sa biologie, son silence, son genre de femme sous silence pour les cacher, pour cacher sa féminité et ainsi anéantir finalement la cause du trauma, puisque la cause du trauma était la féminité. Sauf que la cause n'est jamais, bien entendu, la victime, mais bien celui qui abuse. Peu importe les justifications qu'il donne à ses actes, on est bien d'accord là-dessus. Mais finalement, c'est quelque chose, c'est un instinct de survie que va posséder l'être, en l'occurrence ici la femme qui a été abusée, de trouver des solutions lorsque du coup elle n'a pas eu les outils de maîtrise de l'énergie masculine. Et du coup, l'être va, comme ça, chercher des possibilités, notamment, du coup, la fuite, et de comprendre aussi, de façon instinctuelle ou claire, parce qu'au moment de l'abus, ça a été donné, notamment, bien entendu, des abus sexuels. S'il y a abus sexuel, c'est qu'il y a désir de cette sexualité-là, désir de cette intimité-là, désir de cette biologie féminine, et que du coup, en cachant cette féminité-là, on retire une des causes de refaire, de revivre ce trauma. C'est donc de la protection, et quelque chose finalement d'assez logique, d'assez fonctionnel par notre ego, par notre être. C'est de la survie, et c'était parfaitement utile de le faire. Mais maintenant qu'on essaye d'avancer, de reprendre les rênes, notre souveraineté et nos joyaux, tout simplement, et bien du coup, il faut arrêter de continuer à vivre en mode survie et de passer tout simplement en mode vie juste et vie de façon expansée, fleurie, maîtrisée. Donc, ainsi, cette blessure, dans cette blessure, on ne peut pas être ce que l'on est, c'est-à-dire femme, une femme féminine d'ailleurs, et on ne peut pas faire, c'est-à-dire utiliser l'énergie masculine de façon équilibrée. C'est donc une blessure de l'être et du faire dans les deux polarités. Voilà un petit peu pour le récapitulatif et pour situer à quel point les deux blessures du féminin et du masculin sont complexes, plus encore, je trouve, ça c'est mon point de vue personnel, que les cinq blessures d'âme, et pourquoi cet atelier en fait a une base légèrement différente aussi de ce que je propose pour les cinq autres blessures. Donc nous voici à ce stade du joyau, un stade qu'il faut honorer car c'est difficile d'arriver jusqu'ici, donc bravo à vous, prenez juste le temps de vous féliciter, de vous célébrer, d'avoir traversé tout cela. Maintenant, mettons notre intention et notre concentration à saisir le joyau et à voir ainsi progressivement une amélioration dans notre quotidien, le passage du mode survie en mode vie. Cela va nous permettre d'éprouver de la gratitude et de conscientiser tout simplement notre évolution. Alors, le joyau, le trésor, l'or, c'est celui de la transformation du plomb en alchimie. Donc, l'ombre, la blessure, nos défauts deviennent la lumière, la guérison et nos talents. Ce qui, à première vue, était une faiblesse, on le retourne comme une pièce de monnaie et on voit les capacités positives qu'il y a cachées là derrière. Quel est le joyau, donc, derrière la blessure du féminin, quand on retourne la pièce? Selon ce que je viens de dire, ce serait tout simplement d'affirmer que le joyau, c'est d'être authentiquement féminine, à l'aise avec sa féminité, et donc de se la réapproprier. Mais aussi, en plus, de savoir comment et quand utiliser notre énergie masculine de façon juste et équilibrée. Cela nous donne, si on devait le résumer en une phrase, une femme authentique en sécurité, et vice-versa, une femme en sécurité et donc authentique. Quand une femme, effectivement, vit en sécurité, ça on peut le voir, en se créant cet espace-là de sécurité, elle peut s'épanouir et être enfin elle-même authentique. Elle se peut se l'autoriser parce qu'elle sait que c'est possible. Donc, nous, en tant que blessés, nous sommes responsables de nous apporter cet environnement-là sans utiliser quelqu'un pour le faire à notre place, même si ça peut être une évolution temporaire d'utiliser, entre guillemets, d'utiliser, parce que du coup, on n'est pas dans la manipulation non plus. Mais de passer par le stade où l'on rencontre une énergie masculine qui saura, elle, utiliser sa propre énergie masculine de protection pour pouvoir créer un espace de sécurité dans lequel la femme pourra montrer son authenticité. Ça, c'est une phase possible. Mais cette création-là, à terme, ne peut être vraiment sécuritaire, donc indépendante d'un autre, car on sait très bien que si cette personne un jour décide de partir, elle va emmener cet environnement sécurité avec elle. Et donc ça va toujours rester un petit peu comme ça à l'arrière de notre de notre tête. Hein. L'ego va garder cette information-là parce que l'inconscient, même si on n'y pense pas de façon active, c'est inscrit qu'il y a ce risque-là, qu'on nous ôte notre sécurité si cette personne temporaire venait à partir. Et donc, on ne peut pas se sentir dans sa tête en sécurité à 100%. Même si, comme je le disais, c'est temporaire, c'est une façon de passer de l'un à l'autre, et que c'est très utile, on ne va pas le renier si ça se présente à nous, bien évidemment. Mais le joyau, c'est à terme de savoir que nous avons toutes les capacités de pouvoir créer nous-mêmes cette zone-là de sécurité-là pour nous, à chaque instant, n'importe quand dans le futur. Cela passe forcément par la volonté et par la force du ventre. Nous avons les capacités de nous créer cette sécurité-là, même si nous n'avons pas eu cela pendant notre enfance, même si nous ne l'avons jamais utilisée avant, elle est bel et bien là, derrière la boue, derrière ses facettes irrégulières. Le joyau, il est là, il est dans cette terre, il est l'or et derrière le plomb. C'est présent, on l'a en nous, même si ça a été inexprimé jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, si je devais donner un nom à ce joyau-là, je l'appellerais donc la force du ventre. Le joyau est la force du ventre. Et dans ce chapitre, nous allons le cueillir, ce joyau-là, le saisir, l'avoir dans les mains. On l'a déjà bien poli et maintenant on va le regarder tel qu'il est et on va se rendre compte de toute sa splendeur. Nous avons commencé à le nettoyer, à le polir, à lui faire prendre forme, et pas uniquement que depuis que vous avez commencé cet atelier-là. C'est un travail précieux que nous poursuivons depuis les débuts de notre vie, donc déjà avant, mais pas forcément en conscience comme on le fait maintenant, et désormais nous commençons à le voir pour le trésor qu'il est vraiment, en conscience. Il est donc le ventre, il est l'utérus, la matrice, cet espace sacré, créateur, qui est sacralisé dans bien des traditions, mais pas chez nous, ou en tout cas plus du tout à cette époque-là. En Inde, par exemple, si on regarde dans ces traditions-là, l'utérus de la mère divine est le sujet de grande, grande dévotion. Il est la place d'où nous venons tous, là où se créent toutes les âmes et tout l'univers. Tout l'univers, en fait, est sa création à cette matrice-là, universelle. Je pense à la nature, mais pas que la nature terrestre, bien évidemment. C'est toute la nature, toute celle de l'univers, donc bien bien plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Et c'est en observant la nature dans son ensemble, donc sa création, qu'on apprend à la connaître, elle. Et on le voit, elle n'est pas pure et innocente, que ce soit cette nature ou cette mère divine. Elle est le mal aussi. Elle est la violence entre les proies et les prédateurs. Et on la goûte dans ses aspects positifs comme négatifs, sinon on ne peut pas la connaître. Elle est amour et elle sait s'occuper de nous, ce dont nous avons besoin pour grandir, mais vraiment besoin, pas que de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture d'âme. Et ces nourriteurs d'âme peuvent être des expériences douloureuses et inconfortables, mais que notre âme avait besoin de traverser. Et elle va nous entraîner comme ça, comme un coach, pour nous apporter l'illusion parfaite dont on a besoin pour notre évolution, et elle le fait pour l'évolution de chaque âme dans leur spécificité propre. C'est vraiment le travail d'une mère de milliards, milliards, milliards d'êtres. Et cette mère-là, elle est comme notre maison, comme l'utérus de notre mère biologique a été notre toute première maison, et nous voulons désespérément retourner dans son giron, finalement dans notre maison cosmique. Mais ça, c'est parce qu'on croit que l'on en est séparé, parce que pour retourner à la maison, il faut être parti très très loin. Et ça, c'est une illusion de plus, que notre âme a dû traverser, l'illusion de la séparation, pour pouvoir faire cette expérience-là douloureuse, mais ce n'est qu'une illusion. Comme nous l'avons vu avec notre mère, le lien énergétique subsiste toute notre vie. C'est pareil avec cette fameuse maison utérus-univers, et ce lien est attaché à nous. Il est là, il est présent, il est dans notre ventre. Donc, si notre ventre n'est pas fort, n'est pas renforcé, que notre ventre est faible, ce lien aussi est faible. On ne peut même pas le sentir, on ne peut même pas aller le toucher, le contacter, envoyer de l'énergie, entendre des réponses. Et c'est aussi dans notre ventre, à cet endroit précis, que résident nos pouvoirs évolutifs. Notre graine d'évolution qui nous pousse à grandir, à traverser les différents stades de l'âme. Un petit peu comme le symbole de la spirale qui évolue. C'est dans le ventre que nous sommes connectés à notre début d'âme et à son potentiel de réalisation. C'est-à-dire qu'il faut nous imaginer que nous sommes des graines, comme par exemple les graines de chêne, et qu'à terme, le but, c'est de faire de nous des chênes. Et pour que la graine arrive au but de son développement, et pas que celui-ci dans cette vie, hein, pas que le développement de notre vie là, mais dans l'aboutissement de toutes ces nombreuses vies possibles. C'est ça son potentiel de réalisation. Chacun, et là vraiment absolument chacun, possède un lien à la mère divine par le ventre, mais il est, comme je vous le disais, recouvert d'illusions. Ainsi, notre chakra utérus est un bout du chakra utérus de l'univers. Pour être plus juste, il faudrait parler d'empreinte. Et c'est ça, notre joyau. Et ça a de quoi donner le vertige, en fait, d'être apparenté par le ventre au grand tout et de porter l'empreinte du grand tout à l'intérieur de soi. C'est absolument incroyable de penser en fait que l'univers lui-même est caché dans notre chakra utérus. Et toute la capacité de création, finalement son pouvoir humain, c'est un petit peu comme si, pour vous donner une idée, on visualisait des poupées gigognes qui rentrent les unes dans les autres, et où la plus petite serait notre utérus, puis notre maison physique dans laquelle on habite, notre appartement, notre maison, puis plus loin, autre maison, eh bien, la Terre, la nature, et la plus grande de toutes, après la galaxie, etc., étant du coup cet utérus-là, ce chakra-là de la mère divine. Et donc, parce qu'on a ce phénomène de lien, de lignée d'utérus, finalement, de lignée de maison, eh bien, une étincelle de l'énergie de création existe en nous, ce qui fait, donc, dans cette démonstration-là que j'essaie de vous donner, que s'il y a cette étincelle-là, elle est dans notre ventre, et si elle existe bel et bien dans notre ventre, c'est que notre ventre est sacré. En méditant, nous pouvons nous connecter à la mère divine, à faire l'expérience de son énergie, qui est une sensation de vide et de silence absolu, qui peut faire peur, hein. C'est une espèce d'entre-deux. Mais c'est aussi une expérience de reliance au tout et à toutes les réponses à nos questions. Et par cet endroit-là, par ce vide-là, par cette connexion qui est possible lorsque notre joyau est poli, lorsque nos ventres sont forts, eh bien notre âme a accès à tout, à toutes les réponses. Elles sont à l'intérieur de nous. Le seul problème, finalement, ce sont bien ces illusions-là dont on parlait, qui nous bloquent cette connexion cosmique, ce lien à la maison, et qui nous donnent l'illusion d'être seul au monde. Ainsi, renforcer notre chakra sacré va permettre de lever ces illusions et de retrouver notre âme et sa connexion. Et retrouver donc notre âme, c'est retrouver en fait ses capacités, son énergie, sa connaissance du tout. Les maîtres spirituels possèdent tous un ventre très puissant, le plus puissant de tous étant apparemment celui de Jésus, parce que du coup certains maîtres spirituels actuellement expliquent que c'est par l'énergie de son ventre qu'il se connectait au tout créateur et à la mère divine, et que c'est ainsi par sa connexion-là qu'il pouvait réaliser des miracles. Voilà un petit peu la dimension de ce que recèle notre joyau. En purifiant notre chakra sacré, on peut purifier les illusions placées sur notre âme, placées sur nous, la négativité, les blocages, les erreurs passées et présentes, les addictions à des substances, n'importe lesquelles, et également le karma. Donc en purifiant notre chakra sacré, c'est un peu agir à la racine même de la négativité, avant même d'avoir besoin de se protéger de d'une négativité ayant pris forme dans la matière devant nous, et avec laquelle on serait en conflit. Nous avons besoin de purifier notre joyau et ensuite de maintenir notre chakra utérus à son plus haut niveau énergétique, donc de le renforcer et de le garder fort pour tout le reste de notre vie. Et pour cela, nous avons besoin de ne pas disperser notre énergie avec notamment de trop nombreux partenaires, par exemple. C'est un exemple. Et ça, c'est pour au cours de notre vie, parce que notre utérus, en fait, va garder pendant de très très nombreuses années l'empreinte de nos rencontres sexuelles. Et en fait, c'est un petit peu une décharge énergétique. Et nos partenaires déchargent leur négativité et la femme absorbe, elle est absorbante, elle est attirante, magnétique, et elle va garder en fait toute cette négativité-là. Donc dans notre chakra utérus, nous n'avons pas uniquement à purifier notre propre karma, notre propre négativité et nos illusions, mais également toute la négativité qu'on aura absorbée autour de nous, et cela d'autant plus que notre champ énergétique est très large, et que par compassion, par haute sensibilité, en touchant les autres, en fait, on va comme ça absorber la négativité des autres. Ce n'est pas à nous de le faire du tout, parce que chacun doit gérer ses propres erreurs, son propre karma, mais c'est un petit peu la nature du féminin que d'absorber, et après il faut purifier et nettoyer. Mais quand on a atteint un ventre suffisamment fort, cela n'arrive plus. Bien entendu, on reste empathique, on reste sensible, mais nous n'absorbons plus de façon inconsciente les énergies polluantes et négatives qui ne sont pas les nôtres et que nous n'avons pas à traiter. Le cœur et le ventre sont liés, et avoir un grand nombre de fois le cœur brisé va aussi fragiliser notre ventre, peu à peu. Donc, pour garder la force du ventre, il faut être honnête dans ses relations, dans sa relation amoureuse et amicale, et de faire en sorte de se sentir en sécurité dans ces relations-là, et respecter, bien évidemment. Sinon, il n'y a pas de possibilité pour nous de renforcer notre ventre, il sera toujours fragilisé, et on ne pourra jamais se sentir non plus en sécurité si on n'est pas en sécurité dans notre relation amoureuse. Et dans ce cas, on ne pourra jamais contacter notre authenticité dont on parlait en début de cet audio. Autre habitude à obtenir, en fait, pour renforcer, pour garder fort notre chakra sacré, c'est d'apprendre à contrôler ses désirs, tels que l'attirance sexuelle, en particulier quand on est déjà dans une relation, mais aussi l'envie de contrôler quelqu'un d'autre, ou l'envie de décevoir quelqu'un d'autre. Donc en gros, de faire du mal, de se venger, de manipuler. Tout cela impacte très très fortement notre utérus et l'affaiblit. En fait, tout désir impacte notre karma, car l'énergie de désir est forcément liée à la colère, parce que le désir, c'est l'absence de quelque chose dont on a envie, et il y a une certaine forme de colère, de frustration qui peut émerger, et peu à peu cette colère-là va nous couvrir de plus en plus d'illusions, et c'est un mécanisme comme un cercle démoniaque qui fait en sorte que on est encore plus impacté par des désirs, parce que notre chakra est affaibli, notre ventre est affaibli, et on est de plus en plus en colère, etc., etc. Donc on ne fait, en fait, quand on ne fait qu'obéir à nos désirs et qu'on fonctionne comme cela, on continue d'affaiblir en fait notre chakra. Et là, on voit la différence en fait entre la notion de désir et la notion de plaisir, parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'on en a parlé dans les vidéos précédentes, où le plaisir de la sensualité n'est pas forcément du coup ce vide et cette course à obtenir quelque chose, cette envie de combler le vide. Au contraire, la sensualité, c'est se remplir, c'est faire en sorte que nos sensations remplissent tout notre être au moment présent dans lequel on est. Et le désir, c'est plutôt de voir l'absence de quelque chose. Donc ici, on voit bien l'extrême, que les extrémités que sont finalement le désir et la sensualité, que pourtant, on continue de mettre un petit peu comme ça dans le même panier et d'associer indéfiniment. Pourtant, ce sont donc deux choses bien différentes. Le désir, c'est l'énergie du vide et la sensualité, c'est l'énergie du plein. On est plein de nos sens, on remplit de nos sens. Pour contrôler les désirs, il faut une très forte connexion à notre utérus et il faut aussi une forte connexion à l'utérus de sa propre maman biologique, c'est-à-dire au minimum de respecter notre mère. Plus on respecte notre mère, plus on l'aime, moins on est soumis aux désirs et aux illusions. Tout cela, en fait, apparaît dans plusieurs traditions indiennes, et cette tradition-là reconnaît justement l'existence des flammes jumelles. Ce n'est pas uniquement pour ça qu'on fait cet atelier, mais si jamais c'est quelque chose qui vous parle, j'ai déjà rajouté une petite vidéo dans l'introduction. J'avais envie de placer un petit mot là-dessus parce que j'ai été pas forcément étonnée, surprise de trouver cette information-là, mais que ça donnait du sens en fait. Donc dans cette tradition, reconnaître sa flamme jumelle est même une condition à l'illumination, car pour cette tradition, l'amour vrai amène l'expansion du cœur, la liberté de l'être et l'appréciation. Et cela, apparemment, on ne peut le connaître uniquement que avec vraiment cette énergie-là de flamme jumelle ou au moins d'âme sœur. Alors, si on regarde toutes les informations que je viens de donner d'un œil pragmatique en se demandant à quoi ça ressemble ce joyau dans la réalité, ou en tout cas d'avoir ce ventre fort et non plus une blessure, eh bien j'ai fait une liste assez longue de toutes les choses qui de façon très très ancrée apparaissent en fait lorsque l'on se saisit de notre joyau. Donc maintenant je vais faire le listing de tout cela. Pardon s'il y a des redondances, il y a pas mal de choses qui étaient canalisées plusieurs fois, donc plusieurs fois qui sont revenues, j'avais déjà fait pas mal de tri, mais il est possible, voilà. Mais des fois c'est un sens subtil qui change, donc parfois j'ai laissé. Donc voilà, vous êtes prêts pour la liste, c'est parti. Donc le joyau diminue notre karma et donc apporte un quotidien plus confortable. Il apporte une polarité plus équilibrée, l'ouverture de conscience, une plus grande intention, une plus grande intuition et bien entendu toutes les autres capacités de l'âme, dont celles qui sont spécifiquement les nôtres. Elle permet d'éviter l'emprise des illusions et des désirs, comme on l'a expliqué. Elle génère moins de conflits avec les autres, plus de tolérance et moins d'impact en fait émotionnel. Elle permet également d'accéder à la guérison de l'âme, des autres blessures et notamment des vœux que l'on a pu faire dans les vies antérieures. Elle permet une créativité florissante. Elle permet de suivre l'authenticité de son âme, de se sentir connecté et non plus jamais seul. Elle permet de nous délivrer de toute forme de dépendance. Elle permet également de soigner ses enfants et sa lignée descendante. Elle apporte en fait un nouveau souffle dans la vie en diminuant l'anxiété, notamment les stress chroniques. Elle permet également de s'affirmer au quotidien, de poser ses limites propres et spécifiques à soi, de retrouver cette zone de soi, de soi-même, de s'enraciner plus efficacement, de déborder de créativité et d'inspiration, mais aussi de déborder d'amour et de ne plus garder tout ça à l'intérieur uniquement, mais de réussir à l'exprimer et à l'offrir autour de nous. Donc de dépasser sa vulnérabilité. Elle permet également d'être un petit peu plus sûre de sa valeur, des sagesses que l'on canalise et qui sortent de nous. Elle nous permet d'avoir de la dignité, d'être sûre de soi, d'avoir de l'estime de soi, d'être authentique, mais aussi d'oser être originale et différente, différent, d'avoir de l'énergie à la fois féminine, mais aussi de l'énergie masculine, et cela de façon équilibrée. Elle permet de réveiller l'énergie masculine de façon juste, fondée sur le cœur, de trouver son clan, sa tribu, sa fille d'âme, où l'on peut être enfin soi-même, de croître spirituellement, d'assumer son intimité et sa vulnérabilité, de reconnaître son âme sœur et sa flamme jumelle quand on les rencontre, et de ne plus choisir des partenaires qui ne sont plus en cohérence avec ce que l'on est, de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, de ne plus être sur la défensive, d'être un petit peu plutôt rude et condescendant, de ne plus juger ou condamner les autres, de se sentir beaucoup plus satisfait de notre vie, de nous sentir libres, mais aussi et le plus souvent autonomes, d'être connectés plus souvent, plus longtemps à notre âme, et donc sans peur, qu'elles soient lourdes, des peurs vraiment très lourdes, ou un petit peu plus légères mais chroniques, comme l'anxiété et le stress, qui peuvent devenir des ennemis du quotidien en fait. Elle nous permet de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion entre la raison et le cœur, entre notre tête et notre cœur, de nous sentir puissantes et passionnées, de nous sentir en plénitude, en connexion authentique et en relation profonde avec les autres, de communiquer notre empathie dans la communication vraie et compréhensive, de nous sentir en fraternité avec tous les êtres de la nature et pas simplement avec les humains, d'être en paix avec soi-même, donc de faire la paix et qu'il n'y ait plus de conflits intérieurs qui nous font tourner en bourrique, d'avoir son espace, à la fois l'espace visible de sécurité chez soi, mais aussi son espace énergétique invisible. Ça nous permet également d'être soutenu intérieurement par une force intérieure qui est en nous, en fait, qui est générée par notre soi intérieur, d'être en alignement, d'être fier de ses capacités féminines et d'être connecté au tout. Voilà pour cette immense liste de ce qu'est finalement et de ce que permet le joyau dans notre quotidien. On a l'habitude en spiritualité de parler de deux centres finalement. Le chakra couronne, le plus souvent pour se connecter avec le ciel et la source, et le cœur comme siège de l'âme. Mais on ne parle pas trop, pas beaucoup du ventre en spiritualité, hein. Et en tout cas pas comme un endroit d'échange avec l'univers. Alors, bien entendu, il est vu de façon un petit peu sacrée et miraculeuse, parce que chez les femmes, il permet de créer la vie en portant un enfant, mais finalement ce n'est que 9 mois dans une vie, et on a tout le reste de notre vie à vivre avec ce centre-là. Est-ce que du coup il a servi qu'une fois et après, bon débarras ? En fait, on ne voit pas le ventre comme un autre siège de notre potentiel évolutif, ni comme un temple de reliance avec cet utérus-univers dont on a parlé, ni même comme une des zones de centrage et d'équilibre des polarités. Et pourtant, nous l'avons vu, il est absolument tout cela. Il est l'énergie de manifestation des miracles, des manifestations tout court en fait, de la loi d'attraction comme dans le livre Le Secret, par exemple, dont on parle, c'est cette énergie-là du ventre dont il est question. C'est la puissance d'incarnation et de jeu avec la vie dans la matière, d'y prendre du plaisir à faire ses expériences, plein d'expériences, et à vivre cette vie d'humain sur Terre, là, aujourd'hui, dans cette incarnation. Avec le joyau, c'est donc tout notre rapport à la vie qui change. Et nous apprenons à accepter les différentes expériences sans plus les juger désormais. Et nous apprenons à prendre du recul sur les comportements des autres également, à pardonner et donc à ne plus être autant en colère et donc de se libérer de cette énergie-là, même si c'est une émotion qui nous traverse, parfois on la retient un petit peu trop. Et en fait, c'est elle qui va causer encore plus de cette énergie de désir pour entretenir cette colère, encore plus d'illusions, encore plus de karma, etc., etc. Ces colères prennent notre énergie et la dispersent finalement. La puissance du ventre, c'est augmenter notre énergie et la faire circuler à l'intérieur de nous, la ressentir et l'employer comme bon nous semble, et ne plus comme ça la jeter et terminer en être absolument fatigué, qui n'ont plus l'énergie de créer, qui n'ont plus l'énergie de s'intérioriser, et qui n'ont plus en fait l'énergie d'être aligné avec leur âme. Donc ainsi, on récupère également notre énergie qui sera au service de notre authenticité, de notre âme. Être en possession du joyau, c'est finalement atteindre un état de paix, un état de calme, mais en même temps, plein d'énergie et plein de dynamisme. Je sais, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que souvent, on met l'énergie et le calme l'un en face de l'autre, mais c'est cette plénitude-là de se sentir plein d'énergie, mais en même temps hyper calme et centré. Finalement, c'est une reconnexion de l'âme à son origine qui lui manque tellement, tellement, tellement. Et elle ne se sent plus seule ou abandonnée, mais prête à réaliser sa mission de vie dans la joie, en fait, de retrouver le côté joyeux de l'incarnation. Elle est rassurée, elle est en sécurité, elle est heureuse. Et en fait, notre âme est satisfaite. Voilà pour ce qu'est le joyau force du ventre que l'on récupère après avoir enlevé la boue, après avoir poli toute cette blessure-là du féminin et de voir derrière elle, de voir à l'intérieur ce magnifique joyau qui est maintenant à notre portée de main et sur lequel on va se focaliser pour tout le reste de notre vie et se focaliser en particulier lors de ce chapitre. Vous voyez un petit peu maintenant dont il est question quand je vous parle de ce joyau-là. Et on va regarder dans la suite de cette page ce que cela peut être pour vous. Ce que vous pouvez déjà avoir connu avec cette force du ventre. Et cela passe par quelques petites questions sur lesquelles s'intérioriser et sur lesquelles utiliser notre journal pour réfléchir. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis comme d'habitude, à très vite pour la suite de cet atelier. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À tout de suite.